Vous écoutez Koué Bonjour avec Robert Blondin et Alexis Wawanalwat.
Et avec nous cette semaine, encore une fois, heureusement, toujours content de l'accueillir, Éric Pouliot-Tisdale.
Bonjour tout le monde. Cette semaine, on va jeter un coup d'œil sur les organismes autochtones en soutien à la population autochtone qui quitte les communautés parfois pour venir étudier, donc pour s'organiser dans un milieu urbain. À Montréal, tout au moins, ça a commencé vers 1976, quand le Centre d'amitié autochtone a ouvert les portes. À l'époque, c'était au 3730 Côte des Neiges que le Centre d'amitié a ouvert ses portes. Ensuite, c'était dans le secteur de Atwater, près de Bishop. Ça, c'est en 1976. Et puis, finalement, en 1990-91, ils ont déménagé le coin Saint-Laurent puis Ontario. Alors, donc, là, il y avait, autrefois, il y avait un service pour les familles. Dorénavant, ils ont plutôt misé sur des services pour les gens dans le besoin d'habitation puis de l'itinérance et de la nourriture et tout ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'étant donné qu'ils offrent beaucoup les services pour les gens démunis et tout ça, ils ont moins fait de services pour les familles. Donc, il y a un autre centre d'amitié autochtone lié avec tous les centres d'amitié autochtones de Québec qui a ouvert ses portes en 2015 à Montréal, qui sont près du métro Atwater, je vais y revenir tout à l'heure. Le centre d'amitié autochtone de Montréal, autrefois, servait beaucoup la population, les gens de Kanawake et puis beaucoup d'Inuits qui venaient travailler à Montréal, mais surtout qui venaient à l'hôpital parce que les services hospitaliers dans le nord du Québec, évidemment, c'est très limité. Donc, les gens, ils venaient à Montréal pour des services hospitaliers et puis certains services sociaux aussi. Donc, il y avait beaucoup de cris puis d'Inuits qui descendaient à Montréal pour les services. Puis c'est encore comme ça aussi, d'ailleurs. Il y a un service hospitalier pour les cris qui est localisé sur le boulevard René Lévesque, près de Papineau. C'est vraiment spécialisé là, pour faire un soutien encadré. On a aussi un service un peu méconnu, mais depuis quelques années, on en entend un peu parler parce que la Ville de Montréal a soutenu des fonds pour ouvrir un pavillon de soutien. Ça s'appelle le Projet Autochtone du Québec, ou PAC. Alors donc, c'est un centre qui aide à réintégrer les itinérants et puis des gens qui sont un peu moins bien nantis pour se réintégrer, disons, sur et le marché du travail et pour obtenir un lieu d'habitation fixe et stable. Donc, il y a un service d'alimentation, un service social pour encadrer la recherche de logement et d'emploi. Donc, ils sont localisés, eux, dans le Vieux-Montréal, c'est-à-dire dans le Chinatown de Montréal. D'autres organismes super importants de Montréal, ça s'appelle la Stratégie urbaine de la communauté de Montréal, qui englobe toutes sortes de professionnels. Il y a un comité santé, un comité éducation, divers comités culturels et de diverses strates, finalement, sociales et professionnelles. Alors donc, il y a des gens de la Ville de Montréal, de l'Hôtel de Ville de Montréal qui collaborent aussi. Donc, c'est des réunions deux fois par année. Vraiment une alliance de groupuscules d'organismes qui veulent collaborer au bien-être de la vie des Autochtones dans le milieu urbain. Il y a eu vraiment de grands développements depuis cette époque-là. Donc, la Commission du développement des ressources humaines des Premières Nations, ils sont et à Montréal et à Québec. Mais évidemment, ils sont aux alentours de toutes les autres municipalités près des communautés autochtones aussi au Québec. Un des événements, d'ailleurs, que l'organisme, la Commission de développement des ressources, a fait en collaboration avec la Stratégie urbaine de Montréal, c'est le Salon de l'emploi autochtone depuis à peu près 2015-2016. Ça s'appelle MAMOU, qui veut dire « Ensemble en Inuit ». Le Salon de l'emploi autochtone, s'est organisé avec l'organisme et avec la ville de Montréal pour organiser des rencontres et familiariser les gens avec comment monter un bon curriculum vitae et tous ces pratiques-là là, pour s'habituer dans le milieu urbain à se trouver un emploi. Alors, donc, depuis aussi, en 2016, à peu près dans ces mêmes années, parce qu'on voit le Centre d'amitié autochtone, le premier en 1976, qui a été créé, graduellement développé jusqu'en 1990, puis depuis 2015, une autre succursale. Un bottin, encore avec en collaboration avec la Ville de Montréal, a été développé, ce qui s'appelle le guide de référence autochtone à Montréal, organisé avec le réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal. Et puis, ce guide-là, justement, donne toutes sortes de trucs, de relations, de lieux où trouver des ressources, tant alimentaires, tant au niveau de l'éducation que de la santé, travail sociaux et tout ça. Donc, il y a vraiment eu une émancipation, mais on voit que c'est quand même tardif. Ça a été tardif un peu dans le milieu francophone parce que, évidemment, proche de Montréal, il y a Kanawake. Donc, il y a des gens de la salle de la Chine, beaucoup de gens de Kanawake dans la salle, dans la Chine, près de la pointe sud-ouest de Montréal. Donc, il y avait des choses un peu mieux développées dans ces secteurs-là. Donc, jusqu'à l'est de Montréal, on peut dire que depuis 2014-2015, c'est en train de se développer. Dans diverses institution académique, à l'UQAM, un service de soutien qui s'appelle le Cercle des Premières Nations de l'UQAM, qui a pratiquement 25 ans maintenant, qui est un groupe pour assurer l'entraide et puis les échanges entre étudiants autochtones et avec l'institution aussi pour faire part des développements et tout ça et des requêtes lorsqu'il y a lieu. L'UQAM, donc, c'est la dernière université francophone de Montréal qui a développé cette chose-là, qui est un peu retardataire là-dessus, mais qui semble être en train de vouloir remonter la pente là, en offrant d'autres services et puis de rejoindre un peu les autres universités, parce qu'on sait qu'à l'Université de Montréal, il y a un pavillon entier dédié aux Autochtones et aux étudiants autochtones. À McGill, et un pavillon et un lieu d'habitation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, disons, de la baie James, de l'Ontario, ainsi de suite. Donc, il y a un lieu d'habitation pour les Autochtones. L'UQAM est un peu retardataire, mais ça s'en vient. J'ai entendu dire qu'il y avait des débloqués là, qui étaient en train de se produire, des développements à ce niveau-là. Il y a le collège Kiuna, qui est un collège pour Autochtones, qui a maintenant, si je ne m'abuse, entre 10 et 15 ans. C'est à Odanak directement. Alors, il y a une formation académique collégiale qui est donnée, encadrée par les Autochtones, faite par les Autochtones et pour les Autochtones. Donc, c'est un cégep, un collège. Et puis, il y a diverses formations, tant culturelles et aussi des services sociaux et diverses thématiques entourant la vie autochtone. Le cégep de Val-d'Or aussi s'était bien développé, étant donné qu'il y avait beaucoup d'Algonquins et de Cris. Puis, je pense que pour la baie James, les formations reliées avec les trucs hydroélectriques et les développements d'habitation, ça se passait beaucoup à Val-d'Or. Cégep de Chicoutimi qui a aussi bien développé des thématiques. Puis dans les fondateurs, c'était vraiment depuis 30 ans le collège John Abbott, le collège anglophone de Montréal, de l'ouest de l'île, depuis 30 ans, offre un service aux Autochtones, qui reçoivent un service vraiment sur mesure, de très, très bon suivi pour les étudiants. Il y a donc beaucoup de Mohawks de Kanawake qui sont près de la pointe sud-ouest. Alors, donc, il y a beaucoup d'Inuits aussi lorsqu'ils viennent dans les hôpitaux non loin de Dorval et tout ça. Une agglomération d'Autochtones, disons, au caractère un peu plus anglophone, si on pourrait dire ça comme ça, donc le secteur sud-ouest de Montréal, c'est là qu'il y a le plus d'Autochtones. Alors, donc, c'est là que les services ont pris naissance globalement. Alors, donc, voilà, c'était pour... je voulais vous exposer la situation des organismes et des institutions qui s'occupaient des Autochtones dans le milieu urbain à Montréal, du moins qui offraient certains services. Alors donc, bonne semaine et puis à la prochaine chronique. Merci beaucoup.
From the very first time she caught my eyes till the last time she said goodbye, nothing's the same, it's just a brighter day. She changed everything. Hold on, boy, when she walks that door, you will find out what she's looking for. You keep on wondering what she got her will, where she got her wings. Got to see her face when she gives that smile, little bright eyes like endless skies. She seems so fair when she tells me to take care. She changed everything. She plays her guitar with a harp in a rack. Forget the past, man, it won't come back. You're left to wonder where she's got the power. She changed everything.
Oui, she changed everything. Quelle belle chanson. Prochain invité, en parlant d'everything, il fait à peu près ça, lui, everything. Brad Gros-Louis, qui est producteur, réalisateur, musicien, animateur, comédien, une espèce de Léonard de Vinci, Wendat, je ne sais pas, vous êtes là, Brad?
Salut, ça va bien?
Oui, vous faites pas mal de choses, hein?
Oui, exactement. Ouais, je suis très polyvalent. En 2020-2021, il faut être polyvalent pour réussir à s'en sortir en tant qu'artiste. Là.
Vous n'aurez pas pu choisir quelque chose. Pourquoi vous les prenez tous? Vous prenez tout pour vous, vous ne laissez rien pour les autres.
C'est pas vraiment ça. C'est plutôt, le parcours qui s'est dessiné comme au fur et à mesure qui m'a appris plusieurs choses puis qui m'a amené dans plusieurs domaines. Fait que j'ai souvent laissé les choses aller dans ma vie. Ça m'a amené à plusieurs endroits très intéressants.
J'ai l'impression que souvent, les gens comme ça, très pluriels, ne choisissent pas une chose. Ils n'ont pas une chose en préféré. Ils font de tout avec autant de passion, autant d'intérêt. Hein?
Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'en fait, c'est aussi le fait qu'on est un peu... moi, je pense que je serais pas capable de faire la même chose toute ma vie. Là. Je pense que quand je me consacre à un projet, je m'y consacre complètement, mais après ça, il faut passer à autre chose. J'aime ça évoluer, j'aime ça essayer des nouvelles choses, j'aime ça voyager. Donc, je pense que c'est vraiment plus une mentalité évolutive plutôt que de dire, ben moi, je veux essayer tout. Il y a des choses que j'essaierais pas non plus, là, on s'entend.
Vous avez étudié dans certains de ces domaines-là, non? En cinéma, en TV?
Ouais, c'est ça. J'ai des études de base en cinéma, sauf que, par exemple, j'ai pas complété mes études. J'ai commencé à travailler très jeune. Donc, ça a été un choix que j'ai fait de travailler plutôt que de poursuivre mes études.
Le fait d'être Wendat, je sais que la culture Wendat et autochtone en général vous importe beaucoup. Dans quelle mesure ça inspire directement tout ce que vous faites en création? Ça inspire vraiment ou c'est uniquement un effet du hasard?
Ben, en fait, je dirais même que c'est plus que de l'inspiration parce que j'ai essayé des choses aussi au courant de ma carrière qui n'étaient pas nécessairement en lien avec la cause autochtone, entre parenthèses. Puis souvent, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, tout ce qui a fonctionné réellement, ça a toujours été en lien avec la cause. Donc, à chaque fois que j'avais des projets, puis que derrière le projet, il y avait soit la reconnaissance des peuples autochtones ou juste la connaissance, l'apprentissage, le contact aussi. T'sais, dans les médias, c'est majoritairement dans les médias que je travaille. Donc, dans les médias, c'est beaucoup d'apprendre à connaître l'autre. Donc, ça a toujours été ça. Ça a toujours été de travailler conjointement avec les nations autochtones pour pouvoir montrer au grand peuple qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi on vaut d'exister encore aujourd'hui. C'est surtout beaucoup l'histoire aussi. T'sais, moi, je suis un passionné d'histoire amateur. T'sais, j'aime ça lire beaucoup de choses, j'aime ça m'informer. Puis je pense que ça passe beaucoup. L'information peut passer beaucoup grâce à l'histoire, puis l'histoire, on n'aura jamais fini de l'apprendre. Là,
comment vous expliquez ça, le fait que quand vous êtes attardé, vous avez attaqué d'autres sujets que la réalité autochtone, vous avez eu moins d'impact?
Je dirais que c'est peut-être aussi un certain manque d'intérêt aussi. Je trouve que tant qu'à faire, tu sais, un travail dédié d'artiste, là, il va toujours avoir un petit quelque chose en arrière. Si c'est pas une émotion qui est extrêmement forte, ça va être une cause ou ça va être une raison. Tu sais, il y a une raison. Par exemple, quelqu'un qui va faire une peinture, oui, ça peut être un loisir, mais si on veut passer au niveau supérieur, il faut absolument qu'il y ait une essence derrière ça, que ce soit une émotion qui se transforme en peinture ou que ce soit quelque chose qu'on a à dire. Tu sais, on veut transmettre un message dans le fond. Puis je pense que mon message, moi, je suis Première Nation, donc mon message, c'est sûr que c'est de faire connaître les Premières Nations parce que c'est encore un défi, encore aujourd'hui, de réussir à faire valoir notre histoire puis qui on est. T'sais.
C'est important ce que vous dites, Brad, parce que j'ai l'impression que des artistes, ou même parfois juste des artisans, qui ont voulu faire un art qui n'était pas dans leur identité, tu sais, je me décide à faire de l'art inuit, là, moi, mais qui n'est pas inuit, ouais. Là, ça n'a jamais donné de résultats intéressants, ni en littérature, ni en peinture, ni en musique.
Oui, exact. Il faut que ça vienne de profond, il faut que ça vienne de l'intérieur. Puis même, je pourrais même aller plus loin que ça en disant que je poursuis une œuvre qui a déjà été entamée par certains de mes ancêtres. Donc, dernièrement, je prenais des films Super 8 que mon grand-père a tourné dans les années 60 et 70 avec une petite caméra Super 8. Puis moi, j'ai numérisé tout ça 50 ou 60 ans plus tard. Sur ces images-là, on voit mon arrière-grand-père, Gérard, qui, lui, a été chef à l'époque, il a été petit chef de la nation Wendat. Puis, en voyant ces images-là, ça m'inspire. Après ça, je vais m'informer sur ce personnage-là qui était mon arrière-grand-père. Puis c'est qui son père à lui, tu sais?
Donc, ça, c'est quand l'histoire devient vraiment un patrimoine là, tangible, là, c'est visible.
Oui, puis en plus, il y a tout un travail derrière ça de numérisation, de rendre à l'histoire sa propre vérité. Tu sais, il y a plusieurs choses qui ont été cachées durant l'histoire, puis que quand on fouille un peu, puis que, tu sais, il n'y a personne d'autre que moi qui aurait déchiffré ces Super 8-là. Si je ne l'avais pas fait, ce serait mort. Ça serait désintégré dans l'espace, tu comprends, un jour ou l'autre.
D'ailleurs, il n'y a pas de honte ou de fausse gêne à penser qu'on a vraiment une mission dans une collectivité, quelle qu'elle soit. Hein?
Non, du tout. Puis même, je dirais que quand la mission au début est un peu fictive, dans le sens où on essaie de se convaincre. T'sais, moi, j'ai souvent essayé de me convaincre moi-même que ça valait la peine tout ce que je faisais, parce que ça a été quand même un dur parcours. De travailler, manger ses bas, puis avoir de la misère à payer le loyer, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, ben ça ça fonctionne, puis ça marche. Puis même, à un moment donné, la mission devient vraiment concrète. Comme là, présentement, je suis en train de travailler sur un conjointement avec le bureau d'Union Etio sur le projet Yanyehongde, qui est un territoire protégé dans le nord de la ville de Québec, qui est un des derniers massifs de forêts vierges et intacts des coupes forestières dans la région de Québec, puis peut-être même dans le sud de la province. Donc, il y a des études importantes qui se font sur ce territoire-là, mais là, moi, je travaille à faire un mini-documentaire avec des jeunes Wendat qui vont aller visiter ce territoire-là. Donc là, ça devient vraiment la cause de protection d'environnement, d'écologie, de biologie, puis de transmission de savoir, parce qu'on s'en va faire du canot, puis on s'en va installer un campement comme nos ancêtres faisaient sur les lieux de portage, puis sur les lacs que nos ancêtres allaient pêcher. Donc là, ça se concrétise, ça se cristallise en fait plus qu'un rêve qui est devenu complètement une réalité. Mon année 2021 va être remplie avec ce projet-là qui est complètement fabuleux.
Comment votre milieu autochtone réagit à toutes ces créations, ces initiatives?
Je pense que de plus en plus, j'atteins une certaine crédibilité dans ma communauté. Donc, de plus en plus, les gens qui ont des projets sérieux, ils m'appellent. Ils veulent. Des fois, je suis juste conseiller aussi. Des fois, je vais juste conseiller pour des projets. Donc, je pense que c'est vraiment de la crédibilité qui s'installe en vieillissant, là.
Votre carrière comme producteur, réalisateur, c'est aussi de la même façon, ça doit s'inspirer de votre identité autochtone?
Oui, donc c'est ça. Donc, comme réalisateur et producteur, je travaille principalement à faire des projets vidéo. Comme comédien, comme animateur, c'est plus, je dirais, les gens qui m'engagent sur des plus gros projets, des projets d'ampleur. Souvent, je vais représenter à la télévision puis au cinéma des rôles autochtones. Donc, ça m'est déjà arrivé de représenter des rôles qui n'étaient pas autochtones, mais la plupart du temps, étant donné que j'ai un peu, tu sais, moi, ma mère est québécoise, tu sais, je suis mélangé, sauf que j'ai quand même un peu des traits autochtones, un peu foncés, les cheveux foncés, donc pour des rôles autochtones, ça fonctionne bien, tu sais. Pas pour tous les rôles, parce qu'on s'entend qu'il y a eu des castings, par exemple, ils veulent un Atikamekw, mais ils ne pourront pas me prendre, parce que moi, je suis pas Atikamekw, moi, je suis Wendat, tu sais, je représente la nation Wendat, je pourrais pas jouer un Atikamekw au cinéma, tu sais.
Quand on enseigne les arts, vous avez étudié les arts en tant qu'Autochtone, est-ce qu'on tient compte du fait que les élèves ont une identité autochtone parfois et on les aide à s'exprimer dans ce médium-là?
Ben, je pense que les jeunes... Je prends comme exemple l'émission que j'ai animée qui s'appelle Méchant Trip. On a reçu 52 jeunes autochtones francophones qui venaient de la province de Québec, de différentes communautés. Puis tous ces jeunes-là... Ils savaient pas trop où s'en allait dans la vie. Il y en avait qui savaient un peu plus, il y en avait qui savaient moins. Mais ce qui est sûr, c'est que en ayant participé à une émission qui était autochtone, produite par des autochtones, qui était animée par un autochtone, eux, ça les a inspirés à se dire « OK, il y a de quoi de possible. » Fait que peu importe si le jeune, c'était un hockeyeur ou bien elle voulait devenir avocate ou whatever, c'est sûr que en arrière de tout ça, il y a une espèce de... On devient comme des pionniers, tu sais. On devient une génération pionnier dans le sens où la jeune qui veut devenir une avocate, puis elle va devenir avocate, tu peux être certain qu'elle, un jour ou l'autre, elle va tomber face à face avec un cas territorial ou de défense de droits de la personne ou peu importe quelle cause elle aura, mais c'est sûr qu'on devient des pionniers, on devient un peu des guerriers, des combattants pour le bien et le futur des générations qui s'en viennent.
Brad de Gros-Louis, bonne route, bon sentier, bon canotage, je sais pas, à votre goût, mais c'est drôlement intéressant ce que vous faites. Merci.
Merci beaucoup. Salut.
Au revoir.
Mama, yeah. C'était Jennifer Bellefeuille et sa chanson « Nuto ». On a eu aujourd'hui comme invité Jimmy Papati, l'ancien chef de Kitsakik et qui est aujourd'hui directeur des ressources naturelles, et l'artiste multidisciplinaire Brad Gros-Louis. Merci à nos invités.
L'émission aujourd'hui, comme à l'habitude, d'Alexis Wawanonowat qu'on vient d'entendre, Robert Blondin ici, Maurice Bolduc à la régie, Claire Guérin, la recherche coordonnée par Louis Garon. À la semaine prochaine. Bonjour.